Philippe, moi, là, je dois te confesser quelque chose. J'aime toujours ça quand les matchs se terminent en fusillade.
Ben oui.
Je sais que les puristes sont pas d'accord avec moi, mais je trouve ça spectaculaire.
Je suis content de t'entendre parce qu'il y en a beaucoup qui ont dit quand la prolongation à 3 contre 3 est arrivée, c'est extraordinaire. Ah. C'est vrai que c'est le fun aussi. Wow. Mais à mon avis, on peut pas la faire durer trop longtemps. Là, après 5 minutes, c'est assez, puis on s'en va en fusillade. Puis on le sait, c'est vraiment excitant. Puis hier, ça a donné la victoire aux Canadiens. Mais avant d'en arriver là, c'était difficile pour le Canadien. Hey, contre les Blue Jackets de Columbus, c'était une prise de choix pour le Canadien. Et avec moins d'une minute à faire en troisième période, Patrick, t'as sûrement écouté le match. Les Blue Jackets mènent 2-1 contre le Canadien. 2 points qu'il ne faut pas échapper. Et là, contre toute attente, Thomas Tatar fait perdre la voix à Martin McGuire.
Les enjeux gagnés par Dano. Weber s'échange avec Suzuki. Cercle droit, il s'approche. Toujours, dribble en zone offensive. Plus de gardien chez le Canadien. Échange, haut de l'enclave avec Dano. Transversal, le tir est droit! Thomas Tatar! Et c'est 2-2! Enfin pour lui! Il vient de créer l'égalité!
Un jour, je vais me faire faire une sonnerie de téléphone avec Martin. Ouais, ben, qui crie, ça... Et Marc, et compte!
Ça va te faire sortir du lit très rapidement. Alors, on s'en va en prolongation. Pas de but qui se marque en prolongation. Carey Price est l'étoile de la prolongation, sauf un ou deux buts certains aux Blue Jackets. On arrive en tir de barrage et c'est la chance de Jonathan Drouin. Il fait tout le temps le même jeu, Jonathan Drouin, mais ça a encore fonctionné.
Drouin reçoit le signal. Saisit la rondelle au centre. Il a une bonne vitesse. Ça mène à la gauche du gardien. Coupe dans l'enclave. Drouin ralenti. Il feint. Il lance et Drouin! Jonathan! Drouin! Entre les jambières!
T'as non seulement Martin qui est très excité, mais t'entends le petit rire de Danny à côté. Puis je pense que c'est un petit rire que tout le monde à Montréal avait le goût de partager hier parce que c'était une victoire importante pour le Canadien. C'était le fun de voir Jonathan Drouin marquer ce but-là avec sa grande feinte. Il s'en va longer la bande du côté droit puis il revient vers le gardien de but. Sauf là, il a changé un petit peu son mouvement à la dernière seconde. Mais ça a trompé le gardien adverse et le Canadien qui l'emporte. Donc, 2 points importants. Après le match, on a annoncé que Ryan Poehling s'en allait à Laval, donc il retourne. Alors, ça règle un peu Kotkaniemi, Poehling, on se demandait un peu ce qui allait arriver. Et finalement, c'est Poehling qui retourne à Laval. Et aujourd'hui, c'est pas coutume, Marc Bergevin a donné un petit point de presse, histoire de faire un bilan. C'est très nouveau chez le Canadien que le directeur général s'exprime comme ça pendant l'année. Pendant très longtemps, c'était simplement à la mi-saison, puis encore, il fallait que les journalistes insistent. Et puis, depuis 2 ans, depuis l'arrivée de Paul Wilson comme vice-président aux communications, lui a insisté pour que Marc Bergevin soit présent un peu plus souvent. C'est quand même assez rare, à mon avis, un directeur général qui s'exprime aussi peu publiquement que Marc Bergevin. Tu le vois dans les autres sports. Tu suis les Yankees de New York, par exemple, Brian Cashman des Yankees parle aux médias très régulièrement. C'est pas supposé être un exploit parler à un directeur général d'une équipe, mais à Montréal, c'est le cas depuis longtemps. C'est pas uniquement Bergevin, c'était de même avec son prédécesseur Pierre Gauthier, puis ça a longtemps été comme ça.
Pierre Gauthier, avait-il déjà donné une entrevue?
C'était difficile, mais chez le Canadien, on le sait, il y a toujours des bonnes raisons pour parler un petit peu moins. Et enfin, il l'a fait aujourd'hui, s'est dit heureux. Tantôt, Martin va t'en parler. C'est intéressant quand même ce qu'il a dit, Marc Bergevin. Preuve qu'il devrait s'exprimer plus souvent. Il a jeté un regard intéressant sur l'équipe, très satisfait de la capacité de jouer à fond en troisième période. Et je pense que ça, il a raison. Moi, c'est ce qui m'étonne, ce qui me surprend et ce que j'admire chez le Canadien cette saison, c'est qu'on n'abandonne jamais, jamais, jamais. Et je pense que le match à Vegas récemment, le Canadien perdait 4-2 avec une poignée de minutes à faire au cadran sur la route à Vegas. Le Canadien a continué de se battre et est allé gagner en prolongation. Ça, moi, j'ai trouvé ça impressionnant et je pense que c'est un petit peu ce que Bergevin a noté aujourd'hui sans faire directement allusion à cette rencontre-là.
Et l'échange Sergachev contre Jonathan Drouin s'améliore de jour en jour.
Oui, mais là, tu sais, hier, on parlait de l'échange Subban-Weber. Aujourd'hui, on parle de celui de Drouin et Sergachev. Je pense qu'il faut regarder ça sur des plus longues périodes de temps. Encore une fois, c'est un bon début pour Jonathan Drouin, mais on verra s'il est capable de conserver ce rythme-là toute l'année. Moi, je pense que oui, mais encore doit-il le démontrer.
OK, la saison de baseball est terminée, la saison 2019, mais là, il y a la saison 2017 qui revient sur le radar, puis on se pose une question un peu troublante.
Oui, une sombre histoire. Il y a un lanceur qui, à l'époque, évoluait pour les Astros de Houston. 2017, c'est la saison où les Astros ont remporté la Série mondiale. Le gars s'appelle Mike Friars. Il a donné une entrevue à The Athletic, le site web consacré aux sport. Il joue maintenant pour les Athletics d'Oakland et il dit qu'à l'époque, les Astros de Houston volaient les signaux des receveurs. Alors, ça veut dire quoi, voler les signaux? C'est de mettre une caméra au champ centre et la caméra prend les signaux que le receveur adverse donne au lanceur. Un pour une rapide, deux pour une courbe. Bon, c'est un petit peu plus sophistiqué
puis chaque,
que ça.
Chaque équipe a ses codes.
C'est ça, exactement. Et là, on relayait l'image à l'abri des joueurs des Astros et là, avec une poubelle puis un bâton de baseball, on donnait un gros coup sur la poubelle. Ça faisait boum, puis là, le frappeur entendait, le coéquipier entend un coup, disons, c'est une rapide qui s'en vient, deux coups, c'est un changement de vitesse. Alors, il dit qu'on fonctionnait comme ça. Alors, il va avoir enquête du baseball majeur. Les Astros de Houston disent eux-mêmes qu'ils vont enquêter. Bon, s'ils enquêtent sur eux-mêmes, c'est un peu farfelu, on le sait bien. Mais le baseball majeur dit qu'il va enquêter. Mais moi, je trouve ça assez sérieux comme allégation. Il va falloir que le baseball majeur aille au fond des choses parce que c'est vraiment aller contre l'intégrité du sport. T'es pas supposé faire ça. Je comprends que les règlements ont été resserrés il y a 2 ans, donc ça s'est passé avant. Il en reste pas moins qu'une un des plus grands moments de l'histoire du baseball aux États-Unis, Patrick, c'est en 1951 et ça me rappelle ce moment-là. En 51, il y a une série entre les Giants de New York et les Dodgers de Brooklyn. Les deux équipes, ils jouaient dans la Ligue nationale, terminent à égalité au premier rang. Alors, à ce moment-là, c'était gagnant de la nationale contre gagnant de l'américaine en série mondiale. Qui va aller représenter la nationale? Après 100, à l'époque, c'était 154 matchs, sont à égalité. On décide de faire une série 2-3. C'est 1-1 après 2 rencontres. La troisième rencontre à New York, les Giants, donc, qui reçoivent les Dodgers de Brooklyn. Les Dodgers mènent 4-1 après 8 manches et demie. Ils ont simplement retiré les Giants 3 fois, 3 retraits en fin de 9e, puis c'est fini. Mais là, les Giants reviennent, marquent un point, c'est 4-2. Et là, avec 2 coureurs sur les buts, Bobby Thompson frappe un circuit de 3 points. Les Giants l'emportent 5-4. C'est passé l'histoire sur « The shot heard around the world oui. », le coup qu'on a entendu partout dans le monde. C'est célébré partout. Le pauvre lanceur Ralph Branca des Dodgers de Brooklyn, évidemment, vit avec ce drame-là. Et on apprend quelques années plus tard qu'il y avait justement un télescope. À l'époque, c'était pas une caméra, mais un télescope au champ centre qui permettait aux Giants de New York de savoir quel lancer.
Voler les signaux.
Il y a tout un, c'est devenu, cette histoire-là a été révélée au fil des années. D'abord dans le Wall Street Journal, quelques années plus tard. Et ensuite, il y a un livre qui a été écrit tout récemment, ça fait à peine 3 ou 4 ans, par un journaliste qui s'appelle Joshua Prager, qui est revenu sur toute cette histoire-là, qui jette vraiment une espèce de sentiment un peu sombre sur l'allure de cette série-là. Branca a toujours pris ça difficilement. Il est mort il y a quelques années en sachant que, bon, il a toujours rendu quand même hommage à Thompson en disant même s'il savait c'était quoi le lancer, si c'est le cas.
Il l'a
quand même frappé. Mais tu sais, c'est pas bon pour le sport, une histoire comme celle-là.
T'as bien raison. Merci, Philippe. On te retrouve dans 1 heure et tout de suite après 16 heures. Oui, on va parler de ça. L'ouverture d'un nouveau Costco à Saint-Bruno a provoqué beaucoup, beaucoup, beaucoup d'engouement. Imaginez, il y a des gens qui étaient dans leur voiture 2 heures avant l'ouverture du magasin. C'est un magasin tout neuf aux promenades Saint-Bruno. Si vous étiez là, ben écoutez, appelez-nous. On aimerait bien ça vous parler, savoir pourquoi vous étiez là, pourquoi c'est important. 514-790-9850, 790-9850. Catherine Beauchamp, showbiz, on va parler de Paul Piché, on va parler de Friends et on va parler de Elton John.